Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantzner, bonjour à toutes et à tous. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel en sommet demain à Niamey, premier du genre. Ils arrivent aujourd'hui dans la capitale nigérienne. Le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré, le colonel malien Assimi Goïta et le général nigérien Abdourahmane Tchiani se retrouvent alors que les chefs d'État de la CDAO, dont ils ont annoncé claquer la porte, se retrouvent pour leur part ce dimanche.
On en parlera tout à l'heure avec Issaka Soaré, conseiller au bureau régional pour le Sahel de l'Institut d'études et de sécurité. Il est l'invité d'Afrique Midi.
Le Niger qui retire à la société canadienne Goviex son permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à Madawela, près d'Arlitz, le permis d'exploitation retombe dans le domaine public. Et puis une annonce des États-Unis, une trêve humanitaire de 2 semaines aurait été conclue dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas de commentaire pour le moment à Kinshasa ou à Kigali. Niamey accueille demain le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Cette nouvelle structure qui comprend le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce sommet se déroulera à la veille d'un autre sommet, celui des chefs d'État de la CDAO, la communauté ouest-africaine dont ces 3 pays ont annoncé se retirer. Kaourou Magassa, les autorités militaires nigériennes parlent d'un événement historique et ont demandé un accueil massif des populations pour Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré qui eux doivent arriver dès cet après-midi.
Tout à fait, et ce matin à Niamey, les drapeaux des 3 pays de l'AES étaient de sortie, mais du fait de la pluie qui s'est abattue toute la matinée, il faudra attendre encore un petit peu pour découvrir si la ferveur est de mise dans la capitale nigérienne. Au-delà du symbole, aucun élément n'a filtré sur le programme de cette rencontre, mais on peut s'attendre à ce que ce sommet soit une nouvelle étape pour formaliser le rapprochement entre les 3 pays. En février dernier, lors d'une réunion à Ouagadougou, les délégations ministérielles du Burkina, du Mali et du Niger ont évoqué un projet de traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Le document final pourrait être paraphé ce samedi. D'autres annonces sur la sécurité et le développement commun, qui sont les objectifs principaux de l'organisation, sont aussi à prévoir.
De son côté, la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a rendez-vous dimanche. Le cas de ces 3 pays de l'AES est-il prévu dans les discussions?
Oui, il est prévu car le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vous l'avez dit en titre, ont claqué la porte de l'organisation en janvier dernier. Malgré ce retrait, plusieurs chefs d'État de l'organisation souhaitent maintenir le dialogue et faire changer d'avis les 3 dirigeants du Sahel central. D'autres souhaiteraient plutôt formaliser leur départ malgré les conséquences économiques et institutionnelles que cela pourrait engendrer. Un retour dans le giron de la communauté ouest-africaine du Mali, du Burkina et du Niger est donc la grande question. Mais l'organisation du premier sommet de l'AES à la veille de celui de la CDAO est perçue par certains comme un pied de nez à l'organisation sous-régionale.
Et on verra dans la deuxième partie d'Afrique Midi ce qu'en pense Issaka Soaré de l'Institut d'études et de sécurité. Il est notre invité. Le Niger qui retire son permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à la société canadienne Goviex. On parle du gisement de Madawela, près d'Arlitz, dans le nord. Goviex a annoncé la nouvelle. Elle s'est vue préciser dans un courrier officiel ne plus avoir de droit sur le périmètre du permis d'exploitation qui retombe dans le domaine public. Une décision prise 15 jours après une mesure similaire contre le groupe français Orano. Une décision que Goviex dit déplorer, Charlotte Cosset.
Oui, effectivement, et l'entreprise alerte. Cette décision aura, je cite, un impact négatif sur le développement économique et social de la région. 800 opportunités d'emploi qui seraient perdues. Le projet Madawela devait également contribuer au paiement de redevances et impôts substantiels au gouvernement nigérien, selon l'entreprise. Mais la mise en route tardait trop, selon la société civile, qui déjà en mars s'impatientait que l'exploitation n'ait pas encore commencé. Le mois suivant, Goviex révélait avoir reçu une mise en demeure du gouvernement l'obligeant à débuter l'exploitation avant le 3 juillet. Cette semaine, la télévision publique nigérienne assurait que la société avait mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA pour démarrer les travaux avant la date butoir, montrant des pelleteuses et des camions à l'œuvre, laissant penser que des avancées positives avaient été avait été effectuée avant l'annonce hier par l'entreprise de la décision des autorités. Alors après Orano, vous l'avez dit, c'est donc Goviex qui se voit retirer son permis. Une dynamique de reprise en main du secteur par les autorités. Au mois de mai, le ministre nigérien des Mines a réalisé une tournée dans le centre-nord du pays pour faire un état des lieux. À cette occasion, il affirmait que les dispositions nécessaires seront prises en vue d'affirmer la souveraineté du Niger sur ses ressources minières.
Au Mali, une soixantaine de corps retrouvés près d'Abeibara, dans la région de Kidal, non loin de la frontière avec l'Algérie. Selon des sources locales jointes par RFI, il s'agit presque exclusivement de civils tués par l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner, désormais incorporés au corps africain géré par les autorités russes. David Bachet.
Oui, ils ont été retrouvés ces derniers jours dans un rayon d'environ 40 km autour d'Abeibara. Certains regroupés dans des fosses communes, d'autres éparpillés en brousse, isolés, ligotés. Selon les sources jointes par RFI, Association de défense des droits humains, Kalakal, membre de la rébellion du CSP, notables locaux, l'armée malienne et Wagner ont mené une vaste opération au cours des deux dernières semaines du mois de juin. Les convois sont venus de Kidal et Tessalit. Ils ont nettoyé la zone, détaillent ses sources. Parmi la soixantaine de personnes tuées, un rebelle du CSP et un à six djihadistes du Jnim, selon les versions. Tous les autres sont des civils, des bergers, assurent encore ses sources. Les victimes sont essentiellement des Touaregs, habitants de la zone ou déplacés internes. Ils n'ont pas été tués dans des combats, ce sont des exécutions. Une source sécuritaire malienne confirme. Ces fosses existent depuis longtemps, il y en a dans beaucoup d'endroits, et d'affirmer que seuls les Russes peuvent dire qui il y a dedans. L'armée malienne n'a pas communiqué sur ces opérations et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite.
4 mois après sa mort en exil au Ghana, l'ancien premier ministre togolais Gabriel Agbeyomekojo sera enterré demain dans sa ville d'origine. Le cercueil de celui qui était devenu un opposant farouche au régime a été ramené hier à Lomé, en provenance du Ghana. Des membres de la famille et quelques proches l'ont accueilli à la frontière d'Aflao. Reportage Peter Sassoudogbe.
La dépouille de Gabriel Agbeyomekojo a traversé la frontière du Ghana. Ses enfants et des membres de la famille l'accompagnaient. Du côté togolais, des proches et collaborateurs attendaient. Parmi eux, Jonas Siliadin, ancien chef de cabinet alors qu'il était encore Premier ministre du Togo.
Nous vivons un jour particulier et c'est un grand soulagement pour nous qu'il puisse rentrer et reposer en paix sur cette terre qu'il a tellement aimée qu'il a accepté de donner sa vie pour ce qu'il croit être son bonheur.
La dépouille a traversé la ville jusqu'à son domicile où les parents et les membres de sa famille l'accueillent.
Oh ben Dieu est grand et fait grâce et tu l'as écrit en gros caractère. C'est la dernière phrase que tu m'as envoyée. Dieu est grand et fait grâce.
Gabriel Agbeyomekojo, officiellement arrivé deuxième à la présidentielle de 2020, a continué de réclamer sa victoire jusqu'à sa mort le 3 mars dernier. Et ce vendredi soir, une messe veillée publique se tiendra à la paroisse universitaire de Saint-Jean. Et samedi, c'est dans l'intimité familiale que Gabriel Agbeyomekojo sera inhumé dans sa terre natale à Tokli. Aucune cérémonie officielle n'est prévue pour celui qui fut ministre, président de l'Assemblée nationale et premier ministre avant de devenir un fervent opposant. Peter Sassoudogbe, Lomé, RFI.
En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a entériné hier la réélection de Mohamed Oulcheikh El Razouani à la présidence pour un nouveau mandat de 5 ans. Les chiffres provisoires de la commission électorale l'avaient crédité de 56,12% des voix selon le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu de recours, Polycarpe Samba.
En l'absence de tout recours des 6 autres candidats, les résultats de cette élection ont été validés telle une lettre à la poste par le Conseil constitutionnel. Mohamed Oulcheikh El Razouani, militaire de carrière de 67 ans, élu pour la première fois en 2019, remplit ainsi et c'est officiel pour 5 ans à la tête de la Mauritanie. Le président réélu a reçu les félicitations de 3 de ses concurrents, dont Ahmad Ould Sidel Moutar, candidat du parti islamiste Tewassoul, selon différents communiqués des états-majors de campagne. Un son dissonant cependant, celui de Biram Da Abed, son principal rival, arrivé deuxième à ce scrutin. Ce dernier, militant anti-esclavagiste qui conteste les résultats du vote, dit continuer à tendre la main pour un dialogue avec le pouvoir pour résoudre la crise post-électorale. Pour rappel, les résultats proclamés lundi par la CENI avaient provoqué des troubles dans certaines villes du pays. Selon les chiffres officiels, 3 personnes avaient été tuées et 2 policiers blessés.
Ce sont les États-Unis qui l'annoncent. Une trêve humanitaire de 2 semaines aurait été conclue dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont progressé ces derniers jours. Une trêve qui commencera ce soir à minuit, selon un communiqué de la Maison-Blanche, Alexandra Brangeon.
Oui, dans son communiqué hier soir, Washington salue cette nouvelle trêve, mais pour l'instant, ni le gouvernement congolais, ni le gouvernement rwandais n'ont confirmé ni réagi à cette information. Alors, selon la Maison-Blanche, cette mesure engage les parties au conflit, l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par les RDF, précise le communiqué, à faire taire leurs armes, à permettre le retour volontaire des personnes déplacées et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. La trêve couvre les zones d'hostilité, précise la porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, Adrienne Watson. La récente expansion des combats au Nord Kivu a empêché les travailleurs humanitaires d'atteindre des centaines de milliers de personnes déplacées dans la zone autour de Kayabayonga, indique la Maison Blanche, et a forcé plus de 100 000 personnes à quitter leur foyer. L'administration américaine appelle toutes les parties à respecter l'esprit de la trêve et assure que le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur soutien à cette trêve humanitaire.
Un mot encore au sujet de la RDC. Une figure connue de la société civile, Gloria Sanga, a été libérée hier après 48 jours dans les geôles de l'Agence nationale des renseignements. L'information a été confirmée par son parti politique.
Afrique Midi sur RFI. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas Sûr, le partenariat sur les migrations conclu entre le Rwanda et le Royaume-Uni, sérieusement remis en question.
Oui, le parti travailliste qui a remporté cette nuit la majorité absolue aux législatives avait promis d'y mettre un terme avant même les élections. Les sports, Samuel Eto'o blanchi des accusations de match truqué par le jury disciplinaire de la CAF. Et puis nous irons à Madagascar avec des épreuves du brevet perturbées par la fuite d'un sujet d'anglais. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi au Tchad, le Conseil national de transition qui fait office de parlement réagit vivement à l'ouverture d'une enquête préliminaire en France visant le président Mahamat Idriss Déby pour l'achat supposé de costumes et vêtements de luxe pour 900 000 euros. Le CNT condamne avec fermeté ce que son premier vice-président qualifie d'accusation lâche qui jette du discrédit non seulement sur le chef de l'État, mais aussi et surtout à la souveraineté de notre pays. Fin de citation. Et puis en Tunisie, le parti Destourien Libre, héritier de Bourguiba et Ben Ali, a confirmé ce matin la candidature à la présidentielle de sa chef de file, Habir Moussi. L'avocate de 49 ans est pourtant en prison depuis le 3 octobre. Le PDL, l'un des partis les plus organisés du pays, juge que l'élection présidentielle est la seule issue pour rétablir la démocratie en Tunisie. La victoire des travaillistes au Royaume-Uni, plus de 400 sièges à la Chambre des communes au terme des législatives qui étaient organisées hier. Conséquence, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, qui annonce sa démission de la direction de son parti, cède sa place à Downing Street à son rival Keir Starmer. Un virage politique dont la première conséquence concrète pourrait être la remise en cause du partenariat ultra controversé sur la migration conclu avec le Rwanda. Emeline Vin.
La délocalisation au Rwanda des demandeurs d'asile et des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni semble sérieusement compromise. Le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, est clair sur ce sujet depuis le début de la campagne, même avant. Un gouvernement travailliste mettra un terme au partenariat avec le Rwanda. Il promet qu'aucun avion ne décollera vers Kigali, faisant économiser des millions de livres sterling aux contribuables britanniques, selon lui. Cependant, Keir Starmer s'est engagé à faire diminuer l'immigration, illégale en particulier. Le programme travailliste ne donne pas beaucoup de détails. Il évoque l'expulsion des passeurs pour enrayer les réseaux responsables, entre autres, des traversées de la Manche. Le Labour pourrait tenter de nouer des accords de rapatriement avec certains pays et avec l'Union européenne, dont il espère se rapprocher. Contrairement aux conservateurs, les travaillistes assurent qu'ils continueront à accueillir des réfugiés et à respecter les conventions internationales, conventions qu'entendait contourner le gouvernement sortant avec sa loi Rwanda. Emeline Van Londres, RFI.
Les sports, Samuel Eto'o, fils, conserve pour le moment les commandes de la FECAFOOT, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football qui l'auditionnait la semaine dernière au Caire. L'a blanchi, faute de preuves, des accusations de matchs truqués qui pesaient contre lui. Dans une autre affaire, l'ex-attaquant des Lions Indomptables est condamné à une simple amende. Babacar Diarra.
Fidèle à sa ligne de conduite depuis les premières accusations, Samuel Eto'o avait nié, lors de son audition, avoir favorisé la montée du Victoria United dans l'élite camerounaise. Un échange audio avec le président du club, Valentin Nkwine, avait pourtant alimenté la controverse sur les réseaux sociaux, mais le jury disciplinaire de la CAF estime manquer de preuves pour poursuivre les deux hommes. Eto'o peut donc conserver les commandes de la FECAFOOT jusqu'au bout de son mandat en 2027. Cependant, l'ancien joueur du Barça et de l'Inter va devoir s'acquitter d'une amende dans le cadre d'une autre affaire, cette fois plus personnelle. Son partenariat publicitaire controversé pour une entreprise de paris sportifs lui vaut en effet une amende de $200,000 pour violation des principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif. Cerné de toutes parts, Eto'o doit aussi composer depuis mardi avec un appel à sa suspension de la part de l'Association des clubs amateurs du Cameroun, en cause cette fois sa double nationalité espagnole, incompatible avec ses fonctions à la FECAFOOT. L'AFCAC réclame ni plus ni moins que sa suspension à vie de toute fonction relative au football au Cameroun.
Le Cameroun a deux matchs de créer l'exploit en basket et de décrocher un billet pour les Jeux de Paris. Au tournoi qualificatif olympique de Riga, les Lions camerounais se sont imposés hier 79-77 face au Brésil pour leur deuxième match de poule, avec 22 points inscrits par Jeremiah Hill, meilleur marqueur camerounais. Ce succès leur ouvre les portes des demi-finales de ce tournoi de qualification. Ils croiseront demain la Lettonie, pays organisateur. Ému et fier, le sélectionneur camerounais Alfred Aboya.
Ces joueurs sont spéciaux. Ils sont en train d'écrire de nouveaux chapitres, de nouvelles histoires pour le basketball camerounais. J'ai joué ce tournoi il y a 16 ans. Nous n'avions pas remporté le moindre match. Mais avec ces joueurs-là, je peux me lancer dans n'importe quelle bataille. C'est un groupe de jeunes joueurs, en pleine confiance. Ils sont en mission et les Camerounais peuvent être fiers de leur équipe. Donc ça me rend fier de faire partie de ce groupe de bosseurs qui essaie de mettre le Cameroun à sa place au sein de l'élite.
Le sélectionneur des Lions Indomptables camerounais en basket, Alfred Aboya. À Madagascar, le quatrième et dernier jour des épreuves du brevet, perturbé hier par des soupçons de fuite. Le sujet d'anglais se serait retrouvé sur Facebook. Et sur toute l'île, les élèves ont dû plancher sur un sujet de secours copié à même le tableau. Au lycée d'Anmépéfilou, le reportage de Pauline Le Troquier.
La confusion règne devant le portail de ce centre d'examen où une foule de parents et d'élèves s'agglutine ce matin.
Je suis en colère parce que toutes mes camarades ont fui le fuite de sujet.
Même avec un sujet de secours fait pour mettre les élèves sur un même pied d'égalité, Jessica ne peut contenir son agacement face aux pratiques de fraude.
Comment dire, moi j'ai étudié mais eux n'ont pas et c'est de la triche.
Assina guette avec inquiétude l'arrivée de son fils au loin. Elle craint que le diplôme du brevet finisse par perdre sa valeur au fil de ces scandales réguliers.
Mon fils aîné a passé le bac l'année dernière, mais il doit le repasser cette année car lui aussi avait été perturbé par des problèmes de fuite de sujets. Alors ça nous inquiète que ce scénario se répète avec le brevet de mon autre fils.
Des événements que la société civile attribue à des failles logistiques dans l'organisation de ces examens officiels. Michel Andjamia Zanerine, responsable du plaidoyer au sein du Mouvement National pour l'éducation pour tous.
Nous apercevons qu'il y a des sujets utilisés lors de l'examen qu'on va acheminer par le taxi Bruce, les transports publics. Et moi, je trouve que c'est très risqué. Et c'est quand même un sujet officiel et c'est quand même une source de fuite.
Face à ces perturbations, la police et la gendarmerie ont été saisies. Des suspects ont par ailleurs été arrêtés, assure à RFI, une source au sein du ministère de l'Éducation nationale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Il est 14h48 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 5 juillet.
La colère des Européens concernant la visite de Viktor Orban en Russie. Quelques jours après avoir pris la présidence tournante de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois est à Moscou et a rencontré tout à l'heure Vladimir Poutine. Sans accord des 27, les responsables le l'ont rappelé. Sans accord non plus avec l'Ukraine, dit Kiev ce midi. Le chef du parti travailliste nommé donc Premier ministre au Royaume-Uni après sa très large victoire aux législatives d'hier, Keir Starmer, promet de reconstruire le pays et assure le changement commence immédiatement. L'ouragan Beryl est arrivé au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Il est moins puissant que les jours précédents, mais les vents atteignent tout de même 160 km/h. Des touristes ont été évacués des plages et une centaine de vols annulés par précaution. Et puis il y a du football à suivre aujourd'hui. Premier quart de finale de l'Euro, Espagne-Allemagne, puis France-Portugal. Le match des Bleus est à suivre en direct sur RFI à partir de 19h, temps universel. Mais pour l'heure, on va retrouver notre invité. Le premier sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel a lieu demain à Niamey. Première rencontre du genre entre le colonel Assimi Goïta, le capitaine Traoré et le général Tiani. On en parle avec Issaka Souaré, conseiller au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour le Sahel et le bassin du lac Tchad. Il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Issaka Souaré.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on attend de ce premier sommet des chefs d'État de l'AES? Vont-ils lancer la confédération qu'ils promettent depuis des mois?
Il faut attendre de voir, mais ça me paraît invraisemblable que cela soit le cas dès le premier sommet, parce que la confédération c'est une étape bien avancée. Et c'est le premier sommet, on peut s'attendre donc à ce qu'ils parlent de l'avenir de leur organisation, des priorités. Et si je me réfère à une intervention récente du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à Bruxelles, je pense, quand il disait qu'il reconnaît que le projet de l'AES était un projet, comme certains l'ont décrit, comme émotionnel, c'est-à-dire réactionnaire, mais qu'ils sont maintenant en phase de construction. Donc peut-être qu'ils vont se pencher sur la construction. Peut-être aussi, parce que ce n'est pas encore fini avec la CEDEAO, c'est penché aussi avec les relations avec la CEDEAO, d'autant qu'il y a des efforts pour toujours garder les trois États membres au sein de l'organisation sous-régionale.
Ce sommet de l'AES est convoqué à la veille du sommet de la CEDEAO. Est-ce une provocation à l'égard de l'organisation ouest-africaine ou une ouverture est-elle possible?
Je pencherai vers la seconde hypothèse, ouverture. Vous savez que ce sommet est un sommet ordinaire de la CEDEAO, donc on sait qu'en ce temps-là de l'année, il y a ce sommet qui est organisé. Ça peut être une coïncidence des calendriers, mais ça peut être aussi voulu. Alors, si c'est voulu, d'abord, c'est le premier sommet des pays de l'AES. Ils vont certainement parler de l'avenir de leur organisation et cet avenir-là peut se faire aussi en lecture avec la CEDEAO parce qu'il y a encore des démarches en cours vers ces pays-là de maintenir leur statut de membre au sein de la CEDEAO. Il faut rappeler que le 24 mai dernier, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a demandé incessamment à la Commission de l'Union africaine de dynamiser davantage, de s'impliquer davantage dans le processus, d'ailleurs nommer un haut représentant vers les pays en transition, mais aussi de travailler avec la CEDEAO envers ces pays-là. Donc, je pense que ce sommet, ils peuvent se pencher sur l'avenir de leur organisation à moyen, court et long terme, mais je pense aussi, intervenant la veille de la CEDEAO, ça peut être aussi une manière d'harmoniser les positions vis-à-vis des pays qui sont en cours envers eux, venant de la part de la CEDEAO ou d'émissaires qui travaillent au nom ou pour le compte de la CEDEAO.
On a vu notamment, docteur Souaré, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye plaidait pour renouer le dialogue avec les pays de l'État de l'Alliance des Sahel. Comment ce discours est-il accueilli dans ces trois pays? Est-ce que ça a une chance d'aboutir?
Je pense que le président sénégalais a beaucoup d'atouts en sa faveur. D'abord, personne ne peut lui reprocher des problèmes de défaillance démocratique. On sait les conditions dans lesquelles il a été élu. Il y a aussi une convergence générationnelle entre le président Faye et au moins deux des trois dirigeants de l'AES. Quelques convergences aussi idéologiques. Je pense que tout cela constitue des atouts pour le président sénégalais. Et la porte n'est pas encore fermée, d'abord dans le sillage du communiqué de son dernier sommet du 24 février, la CEDEAO a pris déjà des mesures en levant les sanctions financières et économiques qui pesaient sur le Niger et le restant des sanctions qui pesaient sur le Mali et le Burkina Faso. Et encore, on voit ces actions du président sénégalais. Et au vu aussi de l'article 91 du traité de la CEDEAO, ces pays restent encore des membres de la CEDEAO. Et je pense pense aussi, après l'émotion, ben, on peut à tête reposée réfléchir sur les implications à long terme. Donc, je pense que la porte n'est pas encore fermée. La CEDEAO peut prendre des mesures telles que je viens de citer, mais aussi aller encore plus avec, par exemple, un engagement pour appuyer ces pays-là dans leurs efforts de lutte contre l'insécurité. Et les réformes au niveau de la CEDEAO, en ce qui concerne l'adoption, j'espère bien prochainement, de la version révisée du protocole additionnel de la CEDEAO sur la gouvernance. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises au niveau de la CEDEAO, mais aussi au niveau des pays de l'AES, bien qu'eux, ils sont encore timides, certains sont encore campés dans leur position, mais je ne pense pas que la porte est encore fermée.
Alors, la porte ne serait pas fermée, nous dites-vous, mais les pays de l'Alliance des États du Sahel ont tout de même dit que leur décision de quitter la CEDEAO était irréversible.
C'est ce qu'on dit, mais quand on voit la réalité, elle ne peut pas être irréversible. Encore une fois, dans le feu de l'émotion, on peut prononcer certains mots. D'abord, serait risqué pour eux de dire que c'est irréversible en ne respectant pas la clause de l'article 93.11, parce que ça, c'est un élément important du droit international, parce que si tu le fais, c'est-à-dire tu claques la porte sans respecter le délai de préavis, mais un membre de l'AES peut demain aussi claquer la porte en ne respectant pas cela, en reprochant aux autres ce qu'il reproche aujourd'hui au pays de la CEDEAO. Mais plus que ça, je pense que ça c'est le juridisme, plus que ça, il y a les implications réelles et pour la CEDEAO et pour ces États-là. Et je pense qu'une fois l'émotion passée, à tête reposée, je le répète, ils vont réfléchir aux différentes implications. Et là, les différentes opportunités qui se présentent pour renouer le dialogue doivent être faites.
Merci. Issaka Soaré, je rappelle que vous êtes conseiller au bureau régional de l'ISS pour le Sahel et le bassin du lac Tchad. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi.
RFI à Kigali. 91.9 FM.
Direction le Rwanda, à 2 semaines des élections présidentielles et législatives. Série de reportages et on commence à Rubavu. Cette ville frontalière de Goma, anciennement Gisenyi, subit elle aussi l'impact de la guerre de l'autre côté de la frontière entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et l'armée congolaise. Les tensions diplomatiques ont largement impacté l'économie à Rubavu, notamment avec chaque après-midi la fermeture de la frontière. Le reportage de Lucie Mouillot.
Au cœur de la rue marchande de Rubavu, Goret Wineza organise les grands sacs de marchandises installés à l'entrée de sa boutique.
Ici, je vends des graines de maïs, du sorgho, du soja et des haricots.
En cette fin de matinée, les clients congolais se dépêchent pour déjà retourner à la petite barrière post-frontalière entre Rubavu et Goma. Avant 2020, 50 000 passages journaliers y étaient enregistrés, mais depuis 2 ans et la fermeture à 15 heures de la frontière en raison des tensions entre le Rwanda et la RDC, la rue marchande à quelques centaines de mètres de là tourne au ralenti.
On avait des clients même au dépôt, il y avait beaucoup de mouvements. Au marché, en combinant les vendeurs, on pouvait vendre à nous tous une demi-tonne de sacs par jour. Maintenant, même vendre 100 kilos, c'est difficile.
Un commerce transfrontalier indispensable pour l'économie de la ville. 3 étals plus loin, Moussa Babonamposé ouvre les portes de son entrepôt. Président d'une coopérative, l'homme d'affaires doit souvent aider les commerçants bloqués la nuit de l'autre côté de la frontière. Les limites d'horaire compliquent les échanges et ont réduit ses revenus de près de 30%.
Nous voulons la paix entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Que Dieu fasse que nos dirigeants s'entendent et que les commerçants profitent du retour au calme et que cela redevienne comme avant.
Une volonté pour les habitants, le retour de la fermeture à 18h de la frontière. Dans les écoles de la ville, l'impact économique se fait aussi ressentir. Jocelyne Mouré-Katété, directrice d'un établissement primaire de Rubavu.
La grande majorité des parents travaillent au Congo. Donc ça a été un peu difficile financièrement. Avant, il y avait des parents qui arrivaient même à payer tout un trimestre ou bien toute une année. Mais aujourd'hui, ça demande de les forcer, appeler toujours. Vraiment, on souhaitait beaucoup que la situation revienne comme avant, ça peut vraiment beaucoup nous aider.
La fermeture quotidienne anticipée de la frontière a chamboulé depuis 2 ans la fréquentation de l'école. Élèves et professeurs congolais ont pour beaucoup quitté l'établissement. D'autres ont dû déménager au Rwanda pour continuer à suivre leur classe. Lucie Mouillot, de retour de Rubavu, RFI.
Et c'est à Rubavu que se termine cette édition africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Yasmine Boulan. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Nicolas Sûr, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans quelques secondes maintenant pour l'actualité du continent américain et d'Haïti. Autre option, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez écouter une demi-heure d'informations en full day. Et si vous êtes en Afrique lusophone, une demi-heure en portugais. A tout de suite.
Vivez le second tour des élections législatives françaises sur RFI.
Situation inédite en France, l'extrême droite est arrivée en tête du premier tour des élections législatives anticipées. Quelle sera la couleur de la prochaine Assemblée nationale ? Ce dimanche, dès 19h45, heure de Paris, découvrez les résultats, nos analyses et les premières réactions en France, mais aussi à l'international, dans nos éditions spéciales à la radio et en numérique. Les élections législatives françaises, c'est à suivre ce dimanche sur RFI et RFI.fr.